Après une semaine d'interruption de notre programme de conférences de carême, nous nous retrouvons ce soir avec le texte que saint Jean nous donne sur la résurrection de Lazare. Avant d'entrer dans le propre du texte, parce qu'on ne va pas le lire, le chapitre est assez long, mais j'imagine que tout le monde a déjà entendu ce texte plusieurs dizaines de fois. Et j'attire votre attention pour mieux se situer sur le plan géographique, de faire un petit tour au chapitre 10 de saint Jean, où Jésus s'était présenté dans un premier temps comme bon pasteur, et après, comme fils de Dieu. Là où les Juifs s'étaient mis... Là où les Juifs s'étaient mis en colère et qu'ils voulaient le lapider. Et Jésus avait réussi à s'échapper et aller l'autre côté de Jordan, là où Jean-Baptiste baptisait. Notre texte aujourd'hui, il parle d'un homme que nous connaissons sous le nom de Lazare. Ce prénom qui est encore très répandu dans le milieu juif et qu'il vient de nom Éléazar, qui signifie Dieu secouru. Et nous allons voir que ce personnage, il va être secouru d'une façon extraordinaire par notre Sauveur, Jésus le Christ. Saint Jean le présente comme frère de Marthe et Marie. Nous avons connaissance avec Marthe dans la scène où il accueille avec sa sœur le Seigneur chez elle et il se met à faire le service tandis que Marie s'assied au pied du Seigneur et écoute son enseignement. Marie, nous le connaissons aussi, c'est celle qui a oint le Seigneur, par le parfum. En ce qui concerne Lazare, on ne connaît pas grand-chose. On le connaît uniquement à travers ce titre que lui est donné le frère de Marthe et Marie. Lazare est malade. Elle a de la fièvre. Elle s'approche à la mort. La fièvre le consume de l'intérieur. Les sœurs sont à ses chevets. Ils ont pris soin de leur petit frère. Ils s'occupent d'eux et ils n'ont pas la possibilité d'aller vers le Seigneur eux-mêmes. Et d'ailleurs, dans leur acte, on voit qu'ils n'ont pas besoin. Dans leur esprit, ils ne souhaitent même pas, ils ne demandent même pas par les messagers qu'ils envoient auprès de Jésus de lui demander de venir et de le guérir. Seulement, à cause de leur amitié forte qu'ils ont, ils envoient deux messagers. Allez dire au maître, celui que tu aimes, ton ami, est malade. Comme s'il voulait attiser par ce message la compassion de Jésus, la sensibilité de Jésus, en sachant que son ami est malade. Jésus reçoit le message, entouré de ses disciples, il décide de ne rien faire. Il reste deux jours Si on essaie d'imaginer la distance entre Béthanie, leur village, le nom de Béthanie qui vient de l'araméen, qui signifie la maison de la pauvreté. Il y a une autre signification aussi qui est donnée au nom de Béthanie, qui est la maison de l'onction. La distance, je pense que ça pourrait être une journée de marche entre Béthanie et l'endroit où Jean-Baptiste baptisait, l'autre côté de Jourdain. Donc, une journée que les messagers ont parcourue pour arriver auprès de Jésus. Jésus reste 2 jours sans bouger et après, il se met en route. Ce qui veut dire, entre le moment où les messagers ont quitté le Béthanie et l'arrivée de Jésus sur les lieux, ça a fait 4 jours. Jésus ne bouge pas parce que il veut qu'à travers cette mort, la gloire de Dieu, son Père, puisse se manifester d'une façon éclatante. Et après 2 jours, quand il dit « Retournons vers le Judée », ses disciples disent « Mais là, à peine, on voulait te lapider, on voulait te tuer, et tu veux retourner ?» Et Jésus répond « Notre ami Lazare est mort, au deuxième approche. » Premièrement, il dit « il dort, et quand les disciples argumentent, il va se reposer, donc il va se rétablir, il va être guéri. Et Jésus affirme que Lazare, notre ami, est mort. Ils arrivent à Béthanie. Jésus ne rentre pas dans le village. Il n'a pas le temps. La nouvelle est annoncée à Marthe. La sœur aînée. C'est elle la maîtresse de maison. Rappelons-nous, c'est elle qui avait reçu Jésus chez elle. Marthe, ils partent à la rencontre de Jésus, le rencontre à l'entrée du village. Il y a un dialogue qui s'enchaîne. Marthe dit, « Maître, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. » Jésus lui donne l'enseignement qu'il fallait. Jésus lui rappelle que c'est lui qui peut ressusciter son frère. Marthe répond, oui, je sais qu'au dernier jour, il ressuscitera. Et Jésus, de nouveau, il affirme, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, s'il meurt, il vivra, il ressuscitera. » Marthe, rassurée, il retourne à la maison. Il y avait, selon la tradition, du monde qui était venu à leur maison pour les consoler dans la peine. Il y avait du monde à la maison et Marthe ne voulait pas que tous les invités soient au courant de l'arrivée de Maître pour laisser agir en toute tranquillité le Maître dans ce qu'il avait promis. Tout doucement, il prévient Marie. Maître est là, il te demande. Marie, ardent dans la foi qu'il a, il se lève et il court. Les invités en le voyant sortir, ils se disent, oh, il retourne. Elle retourne au tombeau pour pleurer. Donc, et ils le suivent et ils arrivent devant Jésus. Marie, avec exactement le même mot, elle s'adresse à Jésus. Maître, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Il doit être vraiment en pleurs et hors d'elle-même en disant ça. Mais Jésus ne lui répond pas. Il le regarde comme son habitude. Il est pris par émotion, par compassion, de les voir dans un tel état. L'expression que j'aime beaucoup, il est pris aux entrailles et il pleure. Ceux qui étaient autour de Marie, voyant Jésus pleurer, ils disent, oh, regardez à quel point il l'aimait. Et certains d'entre eux, ils disent, oh, il aurait pu le sauver pour éviter qu'il meure. Bien entendu, ceux qui font cette reproche sont des espions des pharisiens, parce qu'après, ils courent auprès des pharisiens, auprès des prêtres, pour faire leur rapport. Jésus, une seule question. Où vous l'avez mis? Viens, Seigneur, et tu verras. On le conduit jusqu'au tombeau. Et là, il ordonne. Ôtez la pierre. Nous le savons maintenant qu'à cette époque, les tombeaux étaient creusés dans le roc. Et c'est là qu'on déposait les morts et une grande pierre fermait l'ouverture. Marthe oublie ce qu'il avait dit Jésus. Elle intervient, mais maître, ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Elle commence à sentir. Jésus lui rappelle. Ne t'avais-je dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu et ton frère ressuscitera. Le temps que la pierre soit déroulée ou bien retirée de devant la porte, devant le tombeau, Jésus entre en communication avec son Père. Il lui manifeste sa confiance totale, mais il lui demande de l'exaucer pour que ceux qui sont autour puissent croire. Après quoi, avec une voix forte, il crie, « Lazare, viens dehors !» Lazare sort, toujours avec linceul et les bandelettes et la sueur qui couvre son visage. Jésus demande à le libérer, retirer les bandelettes et linceul et de les laisser s'en aller. Ça y est, nous avons eu l'apparition de Lazare dans la vie de Jésus et après, on n'entendra plus parler de lui. Je ne me trompe pas? Dans notre récit, il y a différents personnages. Lazare, Marie, Marthe, la foule, les disciples. Mais ce qui est important, dans l'attitude de Jésus lui-même, il faut que nous tenions compte de la manifestation des deux natures qu'il existe en lui. les deux natures qui habitent en la personne de Jésus. Jésus, vrai Dieu, car il manifeste sa puissance divine par l'ordre qu'il donne et Lazare qui sort de tombeau. Et deuxième, vrai homme, avec toute sensibilité qu'un être humain puisse avoir. L'homme qui, selon la tradition de son peuple, a l'habitude de pleurer la perte d'un ami. L'homme qui est sensible à voir son prochain dans la tristesse. Cette attitude de Jésus, nous l'avons vue à plusieurs reprises. Après, quand il va ressusciter le fils de la veuve de Naïn, l'évangéliste nous le dit avec le même mot, il est pris par compassion. Dans l'attitude de Marie et Marthe, nous avons vu qu'ils ont une telle confiance dans la bonté de leur ami qui s'appelle Jésus. Mais on voit différents comportements. Jusqu'au moment où Lazare sort de tombeau, il le voit encore comme un être humain. Il le voit le Christ homme, pas fils de Dieu. Je voudrais maintenant sortir de ce texte, de dire aujourd'hui nous vivons pratiquement la même situation. Combien de fois nous avons entendu le comportement et l'attitude et agissement des chrétiens face à une telle douleur et souffrance, face à la maladie, face à la mort. Combien de fois nous avons reproché à Dieu, si tu avais voulu, tu aurais pu guérir mon frère, mon père, mon mari, ma femme, mes enfants qui sont malades et qui sont morts. Mais avant cela, est-ce que nous sommes mis dans une position de rapprochement avec notre Dieu, entrer dans une communication réelle par la prière, entrer dans une communication afin de dire, regarde, tu vois, nous avons confiance en toi. En laissant libre notre Dieu pour agir comme il convient. Et aujourd'hui, aux deuxième semaine de confinement pour nous ici en France, avec tant de malades qui souffrent avec cet virus, à quel point nous nous sommes mis dans une attitude de communication avec le Seigneur. Nous nous réunissons maintenant à travers ce moyen de communication par téléphone. Nous célébrons la messe et nous communions par l'Esprit. Mais le restant du temps, est-ce que nous prenons le temps réellement de dire « Je m'assis, je prends mon chapelet, je dis le rosaire dans mon solitude, à la maison, uniquement pour que cette fléau disparaisse. » Moi, j'ai lu dans différents textes surtout ici en France, à plusieurs reprises, différentes époques, différents siècles, quand le pays était assiégé par la guerre, était dans une souffrance de l'épidémie, comme nous le vivons aujourd'hui, c'est le peuple qui sont mis à genoux en priant et en demandant la grâce du Seigneur. J'en suis persuadé, la France, la fille aînée de l'Église, peut encore manifester la puissance et la gloire de Dieu dans un monde où nous avons vraiment besoin que le Seigneur se manifeste et qu'il confirme. Dans un monde où différentes pensées nous ont repoussés. Aujourd'hui, si cette maladie existe, c'est pour nous rappeler. Aussi bien que Marie et Marthe envoient des messagers pour titiller le sentiment de Jésus envers son ami. Ce maladie est là pour titiller nos cœurs, se dire, retournons vraiment vers le Seigneur et implorons sa miséricorde et sa grâce. Dans ce texte, nous pouvons voir après le chapitre 45, où, après que le Seigneur manifeste sa gloire, comment le monde agit face à lui.
Verset 45,
où les grands prêtres, le conseil, le grand conseil Sanhédrin se réunit et ils décident la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils vont tout faire afin d'exécuter leur plan. Aujourd'hui, nous pouvons faire cette manifestation par la prière, par l'oraison, par la lecture le plus intense des évangiles, afin que notre foi puisse être fortifiée et que nous puissions avancer vers le mystère pascal, qui est le mystère de passage. Mystère de passage de l'esclavage du peuple du Juif d'autrefois, de l'Égypte et de nous, du monde de ténèbres et de péché, vers le salut de l'âme. Ce passage dans lequel nous avons reçu notre baptême. Par notre baptême, nous avons commencé notre vie éternelle. Par notre baptême, nous sommes retirés du tombeau tel que Jésus a demandé à Lazare. Le Père de l'Église, à travers les 4 jours de tombeau de Lazare, il voit 4 temps. Saint Augustin, il prend le péché d'origine par naissance, le premier mort de l'âme, de corps humain. L'infidélité aux lois de nature, deuxième jour de mort. Le rejet de la loi écrite donnée par Moïse, troisième. Et saint Augustin attire notre attention, l'infidélité aux lois de l'évangile qui nous est donné par Jésus le Christ lui-même, ça sera le 4e. Bède le Vénérable dans ces quatre jours, il présente un autre symbolique. Le premier péché qui a existé, c'est l'enflure du cœur de l'homme. Le second, c'est le consentement à faire le péché. Troisième, c'est l'acte elle-même. Et le quatrième, c'est à partir du moment qu'on se complaît dans nos péchés, qu'on prend l'habitude à refaire nos péchés. Rappelons-nous que nous, nous sommes des êtres humains. Par conséquent, notre faiblesse reste toujours présente. Alors, armons-nous dans la foi, par la parole de l'Évangile, par la prière, assidus au rendez-vous avec notre Seigneur. Combattons toutes les influences de ce monde de ténèbres et de péchés. Soyons ce Lazare qui sort du tombeau. Espérons que nous puissions être tous réunis pour célébrer le Pâques de notre Seigneur. Mais sinon, nous pouvons le faire par ce même moyen de communication, en unissant nos voix, nos cœurs, nos esprits. Sortons de notre tombeau et marchons à la lumière de Christ tant que le jour est là. Amen.
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 Merci, Amen.
Merci.
Alors, Amen. Bonjour, Madame Lyon.
Bonjour, bonjour, bonjour. Bonsoir à toutes et à tous.
Bonjour.
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 Est-ce que vous avez des remarques, des questions, des... Nous pouvons continuer le temps en partageant ensemble. J'ai essayé de donner, dans le peu de temps que nous avons, un certain élément de réflexion et méditation. Les amis qui ont l'habitude de recevoir mes textes de recherche, je vais leur envoyer dans 2 jours. Voilà. Et si d'autres personnes sont intéressées, ça suffit juste de me signaler votre adresse mail. Je vous communiquerai l'ensemble de mon dossier. Ah, l'Évangile le dit elle-même, chapitre 10, en apprenant cela, Jésus reste 2 jours. Mais Jésus lui-même, au verset 4, il dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus est conscient, lui qui a créé l'homme de rien, avec la puissance qu'il possède, il peut très bien faire sortir Lazare au bout de 4 jours de son tombeau. D'autres questions, d'autres remarques?
Qu'est-ce qui devient Lazare après, une fois qu'il est ramené à la vie?
Mais il continue à vivre jusqu'à la mort corporelle.
Voilà, d'accord.
Voilà.
On n'en parle pas dans les dangers.
Et si je me trompe pas, selon la tradition, il est même venu en Gaule.
Marseille.
Ah oui.
Marseille. Il a continué à témoigner par sa vie.
Chercher à les tuer, oui.
D'autres remarques?
La signification, Père Elias, c'est 4 jours.
Oui. Non, je n'ai pas parlé de l'infidélité.
Non, vous avez parlé de la signification des 4 jours.
Oui.
Par Saint-Augustin.
Oui. Alors, Saint-Augustin, je vais retourner sur l'autre page. Voilà. Saint-Augustin, je vous lis le texte de Saint-Augustin. On peut expliquer ces 4 jours de plusieurs manières différentes, car une même chose peut avoir diverses significations. Le péché que l'homme reçoit avec la transmission de la vie est un premier jour de mort, le péché originel. La transgression de la loi naturelle est un second jour de mort. La troisième, c'est le mépris de la loi écrite que Dieu a donnée par Moïse. Et la violation de la loi de l'Évangile est le 4e jour de mort. Mais malgré cela,
4 morts, oui, d'accord.
Malgré cela,
on
le commet. Malgré cela, soyons confiants, aussi bien qu'après 4 jours a fait sortir Lazare de son tombeau. Malgré ces 4 états de mort de cœur, le Seigneur est là pour nous prendre la main et nous mettre debout et nous faire marcher.
Oui, d'accord.
Avant que nous soyons en ligne, je le disais à Père Charles Bernard, ces 4 jours, personnellement, je l'ai vécu. Mais il ne m'a pas laissé. Il ne m'a pas laissé seul. Il est venu. Il m'a sorti. Et il m'a libéré.
Merci pour votre témoignage. Merci. Merci.
D'autres questions?
Non, c'est bon.
Alors, la semaine prochaine, on pourra refaire un peu à peu près le même rendez-vous. On terminera en fait.